sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le 12e dimanche.
Ne les craignez donc pas, vos persécuteurs, car il n'y a rien de voilé qui ne sera pas dévoilé, et rien de caché qui ne sera pas dévoilé. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le dans la lumière. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les terrasses. N'ayez pas de crainte de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Deux moineaux ne se vendent-ils pas pour un sou? Cependant, aucun d'eux ne tombe à terre à l'insu de votre Père. Et les cheveux de votre tête, tous sont dénombrés. Ne craignez donc pas, vous êtes différents de la multitude des moineaux. Celui qui se déclarera pour moi devant les humains, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais qui me reniera devant les humains, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Bonjour André, bonjour chers auditeurs et auditrices.
Bonjour Georges. Aujourd'hui, Georges, de telles paroles nous donnent du courage. Ne craignez pas, n'ayez pas peur, soyez sans crainte.
Oui, quatre fois dans les six versets, cette interpellation va retentir. Et c'est aussi, on s'en souviendra peut-être, le premier message de Jean-Paul II lorsqu'il a été intronisé évêque de Rome. Alors cet encouragement n'est-il pas aujourd'hui encore nécessaire pour nous chrétiens devant ce qu'on peut appeler le déclin de l'Église en Occident, mais aussi devant les difficultés économiques, le chômage, la violence dans les écoles, le suicide de nos jeunes et le nettoyage ethnique au Kosovo?
Dans quel contexte se situe cet appel de Jésus à ne pas craindre?
Alors, les chapitres 5 à 7 de Matthieu ont décrit la conduite de vie à laquelle Jésus appelle. Ce sont les fameux passages « On vous a dit, moi je vous dis ». Puis le chapitre 8 montre Jésus mettant en pratique son message et, par son amour, apportant la vie aux malades et aux désespérés. Le chapitre 10 va lui montrer comment le disciple doit vivre pour être semblable à son maître. Car les disciples sont désignés maintenant comme des envoyés, des apôtres, pour reprendre le mot grec qu'on a francisé. Or, l'envoyé est quelqu'un qui doit représenter son maître, c'est-à-dire le rendre présent. Il aura donc le même comportement, le même message. Il sera accueilli comme s'il était le maître lui-même. Alors on pourrait penser que cet envoi a dû être enthousiasmant pour les 12 disciples, être envoyé comme les représentants de Jésus avec les mêmes pouvoirs que lui, et se savoir donc, indirectement, envoyé par le Père. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est sans doute ce que Jésus leur a souvent répété. Être l'envoyé de l'Éternel, du Créateur de l'univers, pour transmettre la paix, sa paix. Voilà une mission qui doit normalement apporter une joie inébranlable. Eh bien, Jésus semble plutôt prévenir ses disciples que la tâche sera rude.
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. On vous livrera aux Sanhédrin qui vous flagelleront et vous traduiront devant les gouverneurs païens.
Oui, l'envoyé subira les mêmes rébuffades, le même rejet que son maître. On reconnaît dans ses paroles le parcours que Jésus a suivi, la condamnation par le Sanhédrin juif, le transfert à Ponce Pilate le païen. Le message dont les envoyés sont porteurs ne sera donc pas forcément bien accueilli.
Comment se fait-il que l'Évangile de Jésus conduise à la persécution? Comment se fait-il que l'Évangile, dont le nom signifie « bonne nouvelle », puissent être refusés et rejetés.
Oui, on a bien du mal à comprendre cela. Certes, nous savons bien comment Jésus a fini sa mission, mais inconsciemment, on est peut-être tenté de penser que la croix n'était, si on peut dire, qu'un accident de parcours, quelque chose lié aux circonstances politiques du moment, une sorte d'incompréhension entre Jésus et les chefs juifs de ce temps de l'histoire. Certes, déjà, cette fin de vie serait quelque peu incompréhensible, car le message de Jésus est en effet un message d'amour, un message de pardon, une invitation à l'unité, à la communion. Alors est-ce que ça n'est pas contradictoire que ce témoignage conduise, au contraire, à la division, à la haine, à la croix? Mais cette mise à mort ne concerne pas seulement Jésus et les chefs juifs du premier siècle. Jésus a prévu cette fin non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui se mettront à sa suite.
N'allez pas croire que je sois venu apporter la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive, la division. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents.
Alors pourquoi cette division qui est causée par l'amour? C'est là, bien sûr, on pourrait dire le mystère du mal, le mystère de notre liberté, le mystère de l'amour. Car celui qui aime en vérité ne peut que respecter la liberté de celui qui l'aime. L'amour ne peut contraindre, ne peut forcer l'autre à aimer. Et dès lors, celui qui aime accepte le risque de voir celui qu'il aime, celle qu'il aime, se détourner de lui, et même parfois se retourner contre lui, et cela jusque même à la haine destructrice. La peur de l'autre, l'insécurité profonde, personnelle, la jalousie sont porteuses de cette transformation de l'amour en puissance de mort. L'amour vrai accepte de souffrir à cause même de son amour. Ah, pour tenter de comprendre cela, chacun de nous doit sans doute faire appel à son expérience personnelle. Quelle mère, quel père n'ont-ils pas souffert un jour ou l'autre de voir leur adolescent mal usé de sa jeune liberté? Est-ce qu'ils n'ont pas alors souffert de se voir comme impuissants à l'empêcher de mal faire, impuissants à l'empêcher de se faire mal? La parabole de l'enfant prodigue illustre bien ce père souffrant d'amour par amour, et n'ayant comme seule réponse que sa patience ardente de voir revenir le fils perdu. Au sein des familles, au sein des communautés, il surgit inévitablement des conflits. Il est si tentant pour régler les chicanes d'imposer des solutions, de vaincre plutôt que de chercher à convaincre. Il y a de multiples façons de faire violence à l'autre. Ce conflit entre les libertés, entre ce que chacun pense être le bien, un bien qu'il prétend imposer aux autres, ce conflit amène la division. Oui, n'est-ce pas souvent notre manque d'intelligence, davantage même que notre mauvais vouloir, qui nous fait diverger dans la façon de voir ce qui est bon et ce qui est bien? On pourrait dire des conflits ce que Jésus a dit des pauvres: vous en aurez toujours parmi vous.
Comment Jésus nous conseille-t-il de réagir dans les conflits?
Là où votre paix n'est pas accueillie, partez. Quand on vous pourchassera dans une ville, fuyez dans une autre. Pour Jésus, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix convaincre. Pour lui, il n'est jamais question d'imposer la foi à quiconque. On ne peut pas, par exemple, imposer notre point de vue sur l'avortement par la violence. La vérité, dit-il, se fera reconnaître par elle-même. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Respectez l'autre, même s'il a tort, est plus important que de défendre sa propre vérité à n'importe quel prix. On peut dire qu'il y a ce que j'appelle une rage théologique qui est faite d'intolérance, de fanatisme et de violence, une rage qui n'est pas chrétienne, même si elle peut parfois être commise au nom de Dieu. Le dialogue avec l'autre, pour marcher ensemble vers une vérité plus grande, cela fait partie intégrante de l'identité du disciple de Jésus. On peut citer ici une déclaration qui a été faite conjointement en 1995 par le comité central de la conférence des églises protestantes et orthodoxes européennes et par le conseil des conférences épiscopales catholiques d'Europe.
Nous ne voulons pas passer sous silence que les églises également ont été souvent des témoins ambigus de la réconciliation et le sont aujourd'hui encore. La méfiance et les peurs réciproques troublent l'expérience de l'unité dans le Christ et de sa force libératrice. À notre grande honte, nous devons admettre que même l'évangélisation s'est réalisée en partie sous la menace et avec l'usage de la violence.
Oui, pourtant, la seule vérité dont nous, chrétiens, nous devrions être porteurs avec certitude, c'est celle-là. Tu aimeras ton prochain, même s'il se veut ton ennemi. Ce qui doit toujours guider la conduite du disciple de Jésus, c'est l'amour. Là où la charité est la première règle, là règne la vérité. Le disciple de Jésus ne saurait taire cette vérité de l'amour par crainte d'être rejeté. Il ne saurait jamais être dispensé de témoigner de l'amour et tout spécialement de manifester son amour à celui qui le hait. Le disciple envoyé, le disciple apôtre, est porteur de la paix de Jésus qui veut transformer la haine en amour, et cela au risque de sa propre vie. Les sept moines enlevés et exécutés en 1997 en Algérie, sont des témoins de cette force de l'amour. Écoutons ce que disait Hervé de Charette, le ministre français de l'époque.
Si leur sacrifice est aujourd'hui consommé, chacun en retiendra que la violence aveugle, le terrorisme, les assassinats ne viendront jamais à bout du courage, de l'espoir et de la fraternité.
Et le président français Jacques Chirac ajoutait:
ils incarnaient la tolérance, la fraternité, la solidarité. Ils vivaient leur foi. Leur sacrifice nous donne une leçon. Les forces de la haine et de l'intolérance ne pourront jamais éteindre la flamme du respect de l'autre, de l'amour de l'autre. La présence de ces hommes de paix signifiait l'espoir, la foi dans l'homme et dans sa vérité. Leur exemple doit éclairer notre volonté de vivre dans le respect de l'autre, de sa différence culturelle, religieuse ou sociale.
Oui, Jésus nous dit que nous ne devons pas avoir peur de rendre ce témoignage. En effet, si nous témoignons de cette vérité de l'amour au nom de Dieu, alors, nous dit Jésus, l'Esprit de Dieu sera en nous pour inspirer nos paroles.
Ne vous inquiétez pas de savoir comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là, car ce n'est pas vous qui parlerez. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous.
Et si le témoignage ne convainc pas, si l'adversaire veut nous vaincre par la force et la violence, Jésus nous dit de ne pas craindre cette violence. Oh, remarquons bien que Jésus ne dit pas « Ne crains pas, car Dieu te protégera, ne crains pas, car Dieu finira par te donner de triompher. » Vouloir que Dieu protège de tout danger celui qui se confie en lui, cela n'a-t-il pas été jugé par Jésus comme une tentation? N'a-t-il pas dit au tentateur qui lui disait « Jette-toi en bas du temple, des anges te porteront sur leurs mains » Est-ce qu'il n'a pas répondu « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur Dieu ?» Oui, penser que Jésus nous donnera de triompher, c'est nier que la victoire de Jésus a dû passer par la mort et par l'échec de la croix. Cette victoire en ce monde, Dieu ne l'a pas donnée à Jésus. Le disciple de Jésus est au contraire celui qui sait que la croix est inhérente au témoignage de l'amour. Et ce passage par la mort de la croix est une façon de faire qui est divine. Et cela, bien sûr, l'être humain seul a du mal à le comprendre et à le vivre.
Quelles sont alors nos raisons de ne pas craindre?
Eh bien, pour Jésus, il n'y a qu'un malheur, celui de perdre son âme, de perdre sa vie spirituelle, de perdre son identité personnelle profonde. Le persécuteur, lui, ne peut que détruire le corps. Il n'a pas pouvoir sur notre intérieur. La persécution peut même être vécue comme un chemin de liberté intérieure. Écoutons ce que disait l'archevêque de Prague lors d'un synode en 1991.
Pendant des décennies, les églises d'Europe de l'Est n'ont pu compter que sur Dieu seul. Elles ne disposaient pas de protection juridique et politique, ni de biens matériels pour pouvoir affronter l'épreuve. C'est pourquoi nos églises soulignent aujourd'hui que la libération n'est pas le seul grand bien. Dieu est le seul et unique grand bien. Nous avons pu faire l'expérience d'une grande libération intérieure quand la persécution nous a libérés des biens matériels. En réalité, même sous le régime communiste, nous étions libres. Libres spirituellement parce que dépouillés matériellement. Et bien que nous soyons tous libres maintenant, nous pourrions être une fois de plus esclaves. Esclaves de nos intérêts, de l'importance de notre rôle, de nos préoccupations et même du souci d'une nouvelle évangélisation.
Oui, ceux qui ont vécu les camps de concentration de la Seconde Guerre mondiale le disent. Parce qu'il nous avait tout pris, nous avons appris à être pleinement libres. Libres de continuer à aimer ou à haïr. On peut citer aussi Jacques Sommet, un jésuite français qui a connu le camp de Dachau.
À travers le passage à zéro, on découvre ou non la liberté. La libération est peu de chose à ce moment-là, il ne reste plus que la liberté. Moment positif qui n'existe peut-être pas dans la vie de l'ouvrier allant depuis toujours à son usine sans se poser de questions de ce genre. Mais quel moment plus dangereux aussi. On peut glisser, on peut abandonner la liberté. Certains vivent cette situation ambiguë de liberté de façon plus ou moins consciente. D'autres gardent une sorte de dignité et de fierté. Pas tous. Certains vont se limiter à satisfaire le besoin, quitte à sacrifier la liberté ou la dignité qui reste.
Pour le disciple de Jésus, ce qui importe est de sauvegarder cette liberté intérieure, cette dignité de fils et de fille de Dieu que rien ni personne ne peut nous ôter. Rien, sinon notre propre liberté de refuser Dieu et de dire oui au prince de la haine. Écoutons l'apôtre Paul redire le pourquoi de notre confiance.
Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment, avec son fils, ne nous donnerait-il pas tout? Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution? Mais en tout cela, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance, ni la mort, ni la vie. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Jésus disait qu'aucun moineau ne meurt sans la permission de Dieu. Si tout ce qui arrive sur terre est permis par Dieu, combien davantage Dieu a-t-il le souci de ce qu'aucun de ses fils ne perde son âme, sa vie spirituelle? Même si nous ne vivons pas dans un contexte de persécution semblante, nous pouvons connaître un jour ou l'autre l'épreuve du découragement, devant notre propre péché ou découragement devant nos échecs. L'image noble de soi est alors cassé, l'idéal est brisé, il nous semble que la foi n'est pas efficace. C'est là qu'il faut nous abandonner avec confiance au Père qui nous aime. Dans cet abandon, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Non, rien ne peut nous séparer de l'amour et de la vie, sauf si nous disons oui définitivement au prince de la haine, c'est-à-dire à celui qui peut nous faire perdre cette vie intérieure, cette vie de communion à Dieu, et nous jeter alors dans la mort de la géhenne, dans la mort éternelle. On sait que la géhenne est une vallée au sud de Jérusalem et qu'autrefois on y avait fait des sacrifices d'enfants aux dieux païens. Du temps de Jésus, on y déposait les ordures qui brûlaient là de façon continue et ce feu incessant était devenu le symbole de la souffrance spirituelle de ceux qui sont privés d'amour pour toujours.
Ce que je vous dis au creux de l'oreille, proclamez-le sur les terrasses.
Si l'on peut perdre son âme en voulant imposer par la force sa vérité ou en privant l'autre de sa liberté, on peut aussi la perdre en se taisant devant les injustices, en pactisant silencieusement avec les forces qui défigurent l'humain. Et cela peut être vrai au niveau personnel, lorsqu'on se tait par lâcheté devant une injustice, au travail ou dans un groupe, lorsqu'on rougit de l'Évangile et de Jésus par crainte d'être ridiculisé ou de devoir s'engager. Mais cela peut être aussi vrai de l'Église elle-même. Écoutons ce que dit Tissa Balasuria.
Les églises chrétiennes, malgré les efforts héroïques des individus qui y appartiennent, n'ont pas encore voulu se convaincre que le système mondial est barbare, que certains hommes vivent dans l'abondance au prix de la pénurie des autres, que l'escalade contre la course aux armements est un crime contre l'humanité, que la domination masculine déshumanise la femme et l'homme à la fois, que le gaspillage de ressources non renouvelables est un grave délit contre l'espèce humaine. On se préoccupe plus de construire ou sauvegarder les institutions de l'Église que de présenter l'Évangile de Jésus-Christ.
On sait que, dans les derniers mois, les Églises ont lancé des pétitions pour demander aux pays riches d'annuler la dette des pays pauvres à l'occasion du jubilé de l'an 2000. Eh bien, avons-nous signé cette pétition ? Jésus nous a laissé son Évangile pour le proclamer au grand jour, c'est-à-dire pour le clamer à tous et partout, comme le grand secret du bonheur, comme le trésor dont nous avons hérité. Un trésor dont nous héritons gratuitement, par l'amour, la grâce de Dieu. Sois sans crainte, petit troupeau, car c'est la grâce de votre Père de vous donner le royaume. Même si ce trésor n'est encore connu que d'un petit nombre, dans la mesure où il est vécu véritablement par ce petit nombre, alors il est une semence qui peut travailler à réunir dans l'amour du Père divin tous les humains. Chaque disciple de Jésus peut redire ce que disait l'apôtre Paul.
Moi qui suis le dernier des derniers de tous les chrétiens, j'ai reçu cette grâce d'annoncer l'impénétrable richesse du Christ. Que le Père daigne nous armer de puissance par son esprit pour que se fortifie en nous l'être intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en nos cœurs par la foi.
Voilà où se trouve la source de la confiance du chrétien. Non qu'il ne puisse connaître l'épreuve ou la souffrance, mais il la vit dans la certitude confiante que Dieu peut lui donner la force de vivre cette épreuve dans l'amour. La confiance en Dieu ne supprime pas la souffrance, mais elle nous ouvre à la puissance de réconfort et de solidarité qui se trouve au plus intime de chaque être. Une puissance qui nous est donnée d'ailleurs à nous aussi pour aider celui qui souffre. Car nous ne sommes pas seulement les destinataires de l'amour de Dieu, mais nous en sommes les relais pour le bénéfice de notre prochain. Notre monde est tellement marqué par la puissance du mal que nous avons peur de faire confiance à l'amour. Citons de mémoire Geneviève de Gaulle qui a vécu dans un camp de déportation nazie.
La peur qui engendre le mépris de l'autre est une tentation perpétuelle de l'être humain. Mais la seule réponse à ce mal est la volonté de fraternité. Ce meilleur dans l'humain est plus grand que le pire, parce qu'il est plus profond.
Le péché contre l'esprit dont parle Jésus, est-ce que ce n'est pas précisément notre doute sur la force de l'amour, sur la capacité de l'amour de supporter le mal, au point que nous finissons par ne plus croire en cette vocation que Dieu nous offre, être les relais de sa tendresse et de son réconfort pour notre prochain. Se prononcer pour le Christ devant les autres, n'est-ce pas d'abord cela, être auprès d'eux les relais de l'amour du Père ?
Qui me reniera devant les humains, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux.
Si nous renonçons à ce témoignage de l'amour qui est notre mission propre comme disciples, Jésus ne pourra être pour nous le relais du Père. Paul explicite cela dans sa deuxième lettre à Timothée.
Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous lui sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
De la même manière que le refus de pardonner à notre frère nous empêche de recevoir le pardon du Père. De même, refuser de transmettre au prochain le réconfort de l'amour, c'est nous empêcher de recevoir ce réconfort pour nous-mêmes. Renier l'amour du Christ, c'est empêcher cet amour de nous atteindre, c'est fermer notre porte à l'amour. Mais ce refus de notre part ne pourra jamais empêcher Jésus, lui, de continuer à nous aimer. Si son amour ne peut pas s'imposer à nous, si nous avons le pouvoir de le paralyser à notre endroit, nous ne pouvons pas faire que Jésus ne soit pas toujours amour comme le Père est amour. Un jour ou l'autre, cet amour qui inlassablement nous espère, cet amour sera trouvé le chemin de notre cœur. N'est-ce pas ce que traduisait cette réponse du curé d'Ars qu'on interrogeait sur le salut éternel de quelqu'un qui venait de se suicider en se jetant dans un puits?
Entre la margelle et le fond du puits, cet homme n'a-t-il pas eu un instant de confiance en Dieu?
Oui, soyons sans crainte, Dieu est amour.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du Catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
Le numéro 514-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, vous pouvez aussi nous trouver sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse de notre site. À la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.